Aymar de Langottier ne manque pas d'humour. Il a un polo bleu marine avec une petite inscription « Prêtre en préparation, veuillez patienter », mais a-t-il écrit en dessous. Dimanche 23 juin, il va être ordonné diacre en vue du sacerdoce par Monseigneur Robert Legal, l'archevêque de Toulouse. C'est à la cathédrale à 16h. Il y aura avec lui un autre ordinant, Paul Roland Gosselin. Pour ce matin, on va faire connaissance avec Aymar. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Merci d'être avec nous. On est à J-5. C'est quoi l'humeur à J-5?
Très détendu. Pour moi, vraiment très détendu.
Vous avez l'air.
Je suis relax. En plus, je suis en semaine d'examen.
Mais oui.
Tout se passe bien.
Plus stressé par les examens que par le D-Day.
Exactement. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et je finis mes examens jeudi après-midi. Et après, je laisserai le temps de me préparer spirituellement et psychologiquement à l'ordination.
Et oui, il faut. C'est quoi les émotions qui vous traversent tout de même? Là, je vous vois effectivement très détendu, en espadrille, tranquille. C'est le grand jour quand même, dimanche. Vous donnez votre vie.
Oui, ça sera le grand jour. De fait, je prends conscience petit à petit de la grandeur de la tâche qui va m'être confiée comme diacre, de la grandeur de la mission, de la beauté de la mission. Donc il y a un aspect un peu vertigineux, mais je m'y prépare sereinement. Et voilà, le Seigneur m'envoie de grandes grâces de paix et de joie.
Vous avez de la chance. Alors effectivement, vous parlez de vertige. Moi, il y a de grands sauts. Moi, il y a une image qui me frappe, qui est très marquante. Marquante justement dans le déroulé des ordinations, c'est celle où on voit des gaillards comme vous, plus ou moins jeunes, allongés face contre terre avec derrière la litanie des saints. C'est là qu'on mesure le don, le mystère.
C'est vrai que c'est un geste assez imposant et assez impressionnant.
Ah oui.
La prostration, beaucoup de prêtres m'ont raconté que lors de cette étape importante de l'ordination, ils pleuraient comme des madeleines.
Bah oui, on imagine.
Donc je sais pas dans quel état
je serai. Ça donne la chair de poule à ceux qui assistent en tout cas.
Mais de fait, quand on invoque tous les saints du ciel pour nous pauvres humains, on se dit qu'on est rien du tout. Et en plus, dans ce geste de soumission, d'être allongé devant notre évêque, c'est très impressionnant.
C'est très impressionnant. Alors Aymar de Langottier, vous allez être ordonné dimanche, on l'a dit, vous allez être ordonné diacre en vue du sacerdoce. C'est donc la première étape vers la préprise. Je crois qu'il faut nécessairement une période de 6 mois entre les deux. Donc si tout va bien, dans 6 mois, vous serez ordonné prêtre. Est-ce qu'on peut comparer le diaconat, cette période, à ce qu'il y a chez nous, les laïcs, la période des fiançailles?
Oui, c'est une bonne comparaison. Dans le fait que ce soit une première étape essentielle, les fiançailles et le diaconat, même si au diaconat, on promet beaucoup plus de choses qu'aux fiançailles.
On va y venir.
Et surtout, le diaconat sert comme première marche à quelque chose qui nous sera donné de plus grand à l'ordination sacerdotale. Mais je prends souvent cette comparaison, vous avez raison, pour dire voilà, c'est une première étape, mais dans le diaconat, c'est bien plus important que des fiançailles.
Oui. Et surtout qu'on a coutume de dire aux fiancés pour leur enlever le stress si jamais il y en avait, les fiançailles c'est fait pour être rompues. Là, vous dimanche, a priori, on va y venir dans le déroulé, vous allez être ordonné diacre et vous engagez et les engagements que vous allez prendre sont sérieux. Le premier et pas des moindres, c'est le célibat. Quand on a 26 ans, comme vous avez, j'ai oublié de le dire, ça se vit comment le célibat et comment on s'y prépare surtout?
Vous avez raison, c'est un engagement sans retour, c'est-à-dire qu'une fois ordonné, je ne pourrais pas dire en fait non, je ne voulais pas, je vais
suis
rompre
trompée.
Les fiançailles. Et le premier engagement est le célibat. Le célibat, c'est pas, on n'est pas pris sur le fait, c'est quelque chose dont on a connaissance depuis très longtemps, et notamment quand on rentre au séminaire, on sait qu'on sera célibataire, qu'on restera célibataire, donc on n'est pas pris au dépourvu sur ça, on s'y engage librement.
On en parle entre séminaristes?
Non pas que ce soit tabou, mais on reste des hommes et dire des choses entre hommes, c'est souvent très compliqué. Mais ça nous arrive parfois d'avoir des petits groupes informels le soir et d'échanger un peu sur les difficultés du célibat, les peurs que ça occasionne et de voir de partager un peu nos ressentis et ce qu'on peut faire pour mieux vivre ce célibat.
Alors c'est le premier engagement, j'ai dit que vous prendrez, vous faites un pas même. même lors de dans le cérémonial des ordinations, et vous aurez cette phrase: pendant les années de ma formation, j'ai discerné cet appel de Dieu et je me suis déterminée à me donner par amour dans le célibat. Diacre, ça veut dire diakonos, serviteur, et à ce titre, vous allez prendre pas mal d'engagements. Est-ce que vous pouvez nous les donner?
Comme diacre, on va s'engager à être serviteur de la parole de Dieu, par exemple, en proclamant l'évangile à la messe. C'est l'un des engagements les plus frappants pour l'Église, parce que c'est notamment le rôle du diacre à la messe de lire l'évangile. Mais il y en a plein d'autres aussi. Il y a le service des pauvres, il y a la prière des heures, s'engager à prier les heures, ce que font tous les prêtres religieux. Et ensuite, il y a l'obéissance aussi à cette
première
étape,
à l'évêque.
L'obéissance à l'évêque.
Vous allez être conformé au Christ serviteur, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je m'engage à la suite du Christ en lui donnant ma vie comme diacre et ensuite comme prêtre, et je m'engage à toujours être en service, toujours être au service de l'Église, au service des plus pauvres, dans mon ministère de diacre.
Aymar de Langotier, je rappelle à ceux qui nous rejoignent, hein, vous êtes jeune séminariste, très jeune séminariste, détendu pourtant à J-5 avant l'ordination diaconale, première étape vers la prêtrise. Alors les petits garçons rêvent souvent de devenir pompiers ou gendarmes, que sais-je. Et comment est-ce que vous, la vocation est venue, Aymar?
Oh, il y a beaucoup de petits garçons qui rêvent aussi d'être prêtres.
C'est vrai,
hein,
c'est vrai.
Et qui célèbrent la messe petit.
Oui, c'était
parents,
votre cas?
Les parents s'en amusent. Non, j'ai jamais célébré la messe avec des petits gâteaux.
Pas encore.
J'ai jamais fait ça. J'ai découvert ça bien plus tard. Mais de fait, j'ai désiré être prêtre à l'âge de 7 ans, je pense.
7 ans?
7 ans, quand j'ai préparé ma première communion. Je saurais pas trop dire à quel moment, mais j'ai vraiment senti un désir dans mon cœur de suivre le Christ comme prêtre, et lui m'appelait en disant « je te veux comme prêtre ».
Ça, c'était à 7 ans.
Oui.
Et vous m'avez dit en préparant cet entretien que le jour de votre première communion, c'est ça, hein, votre maman vous a dit...
Que j'avais l'air transfiguré. Elle m'a dit ça il y a pas longtemps. Hein.
Ah ouais.
Elle m'a dit « je t'avais jamais vu comme ça, tu avais le visage qui était transfiguré ». Et j'ai vu sur une photo, et de fait, j'avais pas l'air hyper...
Malheureux. Alors, ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent, hein, c'est que vous avez grandi dans une famille nombreuse. Vous êtes le quatrième de huit. La foi a toujours fait partie de votre vie. Vous avez ce désir que vous avez ressenti très jeune, ne vous a jamais quitté?
Non, il m'a jamais quitté. Il était très présent quand j'étais petit. Mes parents ont ensuite calmé le jeu, parce que vous imaginez, à 7 ans, je disais à tout le monde que je voulais être prêtre et je voyais pas forcément le mal autour de moi. Donc maman m'a dit « garde ça dans ton cœur et je suis disponible pour en parler si tu veux ». Et donc c'est un désir qui m'a jamais quitté. Non, sûrement une espèce de grâce du Seigneur.
Donc les filles, vous regardiez ça de loin comme une terre inconnue?
Non, ça m'a pas empêché de voir quelques aventures avec des filles, mais je
voir
comprends maintenant
près.
Pourquoi elles ont été toutes malheureuses.
Ah d'accord, oui, très bien. Alors ce que vous m'avez dit aussi, c'est que ce qui vous a tenu, c'est que vous aviez la rencontre régulière avec des prêtres et puis un accompagnement spirituel, un suivi spirituel important.
Oui, mes parents ont toujours été très engagés dans la paroisse où ils sont actuellement, chez les Dominicains. Et du coup, maman, connaissant ce désir au fond de mon cœur, m'a dit « voilà, ça serait bien que tu rencontres un prêtre régulièrement ». Donc, dès la fin du collège-lycée, j'ai été accompagné par un prêtre et qui a non pas mis la main sur moi, mais qui m'a permis de discerner et de voir quelles étaient les choses qui m'habitaient. Et ensuite, la question de la vocation est venue régulièrement, mais elle n'était pas là présente à chaque rendez-vous.
Vous avez suivi des études ?
Oui, après mon bac, c'était hors de question pour moi de rentrer au séminaire, parce que, non pas que j'y pensais plus, mais je voulais quand même découvrir la vie étudiante. Et donc j'ai fait un BTS.
En profiter un peu à Toulouse quand même.
Exactement, j'ai fait un BTS aménagement paysager à Albi, et j'ai pu aussi en parallèle m'engager à la paroisse étudiante de Toulouse. Et donc ça a été deux années magnifiques, où j'ai vraiment pris le temps de mûrir ce projet de devenir prêtre dans un milieu pas du tout porteur, comme j'avais l'habitude de l'avoir.
Et à quel moment vous vous êtes dit « bon, c'est bien les études, mais il faut revenir ».
Ça a été à la fin de mon BTS, quand je voulais continuer sur une licence qui m'intéressait beaucoup. Et là, mon père spirituel m'a dit « est-ce que tu veux vraiment faire cette licence ou est-ce que c'est une fuite de ta vocation ?»
Ah oui.
Et là, j'ai mis quelques temps à réfléchir et c'était assez douloureux. Et je suis revenu la fois suivante en disant « ok, c'est bon, inscrivez-moi à la propé ou faites toutes les démarches nécessaires. »
Et cette fois, j'y vais.
Cette fois,
j'y vais. Ça a été difficile. Vous m'avez dit tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, ça m'amuse. Alors, je me permets de le dire que ce grand saut, vous l'avez fait il y a 7 ans. Vous allez, ça a été bien vécu, hein, je crois, dans votre famille, jusqu'à ces essayages.
Oui, ça a été. Mes parents et ma famille ont tous très bien pris. Mon beau-frère avait même parié avec ma sœur sur mon entrée au séminaire. Et ah. Il avait réussi, il avait gagné. Mais de fait, ça fait 7 ans que je me prépare. Et c'est vrai que le jour de l'ordination diaconale, notamment en France, c'est là où nous prenons l'habit, la soutane ou la chemise clergie. Et donc là, c'est sûr qu'au niveau de mes amis, il y en a quelques-uns qui ont commencé à tiquer en disant mais tu seras plus habillé comme nous.
Et votre maman?
Et ma maman aussi, et je suis allé faire des essayages.
Des essayages qui font un peu penser à l'essayage de la robe, quelque temps.
Exactement, dimanche dernier, j'ai pris soin de mes parents, je suis allé voir, aller chez eux pour faire des essayages. Dernier ajustement, maman m'a refait un ourlet de ma soutane que je porterai le jour J.
Et là, tout d'un coup, elle a pris conscience que ça y est.
Ben oui, je pense, oui. Un peu comme j'ai une sœur religieuse dominicaine, un peu comme sa prise d'habit où c'était très marquant pour tout le monde, mais après on s'y est fait.
Et après on s'y est fait. Emma de Langotier, dans un domaine un peu plus difficile et douloureux, il y a eu beaucoup d'affaires, de révélations douloureuses pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour les prêtres probablement évidemment aussi. Est-ce que ça vous a secoué, vous, cette année ?
Non, pas plus que ça. Non pas que je suis blasé, mais que, en fait, cette première désillusion de l'Église, je l'ai eue en ma première année en propédeutique, où j'arrivais la fleur au fusil, disant l'Église est magnifique et tout le monde est saint. Et là, c'était une première expérience d'Église un peu douloureuse tout au long de l'année que j'ai passée à Aix-en-Provence. Non pas en titre de scandale, mais de côtoyer des prêtres d'un peu plus près, de voir des séminaristes vivre jour le jour.
Les coulisses de l'Église n'étaient pas toujours celles de l'exploit.
Exactement. Et du coup, à cette année-là, je suis tombé de mon piédestal. Et donc cette année, ces scandales-là, ça fait quand même plusieurs années qu'on a chaque rentrée en septembre ou en janvier des faits d'actualité comme ça. Ça me choque pas plus parce que je sais que l'Église est belle. L'Église est très belle
mais faite d'hommes faibles.
Exactement, faite d'hommes et je suis faible comme les autres.
Dernier mot, quel prêtre vous voulez devenir, vous voulez être hein?
Avant d'être prêtre, j'aimerais être un diacre à l'écoute.
C'est vrai, pardonnez-moi.
Un diacre à l'écoute des paroissiens, de l'Église. Et j'aimerais tout faire pour amener au Christ et non à moi. Et que mes proches et mes paroissiens ne me mettent pas sur un piédestal.
Su au cléricalisme avec Aymar de Langotier. Un immense merci pour ce témoignage détendu à J-5. Merci pour le témoignage vivant, hein, d'espérance, de foi. Vous serez ordonné diacre et non pas encore prêtre dimanche prochain avec Paul Roland Gosselin, votre autre acolyte. Précisons qu'à Cahors auront lieu des ordinations presbytérales, ordination celle-là en vue du sacerdoce. Ça sera le 30 juin. Et puis vous aviez une petite annonce, je crois, Aymar.
Oui, j'ai fait une petite vidéo YouTube. Vous tapez ordination diaconal et je suis dans les numéros 3 ou 2 et c'est une vidéo de 6 minutes que j'ai faite cette année où j'explique les missions du diacre et les différents rites de l'ordination. Voilà, allez la voir.
On ira voir. Un grand merci à vous et on sera de tout cœur et en union de prière avec vous
dimanche.
Merci
beaucoup.